Nous lirons quelques passages du livre du prophète Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Quelques passages dans chacun des quatre chapitres de ce livre. Et puis nous passerons à la page suivante, lisant également quelques versets du premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Du prophète Malachie. Au premier chapitre, dès le premier verset, l'oracle de la parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites en quoi nous as-tu aimé? Au verset sixième, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est mon honneur? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous présentez sur mon autel du pain souillé et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Et en ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. Et si vous présentez une bête aveugle en sacrifice, n'est-ce pas mal? Et si vous en présentez une boiteuse et malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. T'agréera-t-il ou te recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel des armées? Et maintenant, implorez donc Dieu afin qu'il use de grâce envers nous, car c'est par vos mains que cela a eu lieu. Vous recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel des armées, si même d'entre vous fermerez les portes et vous n'allumeriez pas le feu sur mon autel pour rien? Je ne prends pas plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et l'offrande je ne l'agréerai pas de vos mains. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations. Et en tout lieu, l'encens sera brûlé à mon nom, et une offrande pure sera présentée, car mon nom sera grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Au chapitre deuxième, au verset quatrième, et vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement, afin que mon alliance subsiste avec Lévi, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la paix, et je l'ai lui donné pour qu'il craignît. Et il me craignit et trembla devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne se trouva pas sur ses lèvres. Il marcha avec moi dans la paix et dans la droiture, et il détourna de l'iniquité beaucoup de gens. Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance, et c'est de sa bouche qu'on recherche la loi, car il est le messager de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écarté du chemin, vous avez fait broncher beaucoup de gens, à l'égard de la loi, vous avez corrompu l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Au chapitre troisième, au verset 13, vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous dites, c'est en vain qu'on sert Dieu. Et quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qui nous a confiée? et que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel des armées, et maintenant nous tenons pour heureux les orgueilleux, ceux-mêmes qui pratiquent la méchanceté sont établis, même ils tentent Dieu et sont délivrés. Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Ils seront à moi mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai. Et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Alors vous reviendrez et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Au chapitre 4, au verset 2, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais, et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je ferai, dit l'Éternel des armées. Et dans l'Évangile selon Matthieu, au premier chapitre, au verset 15, Éliud engendra Éléazar, et Éléazar engendra Matthan, et Matthan engendra Jacob, et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Au verset 21, elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant, voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui interprété est Dieu avec nous. Jusqu'ici. Elle est remarquable et émouvante, chers amis, cette parole de l'Éternel au début du dernier oracle de l'Ancien Testament, l'oracle du prophète Malachie. Quand l'Éternel dit, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ?» Dieu ne veut pas clore les Écritures de l'Ancien Testament sans que, une fois encore, il rappelle l'amour, tout l'amour dont il a aimé son peuple. Et cet amour, chers amis, a été grand. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Si l'on pense aux trois grandes divisions de l'Ancien Testament, ce que le Seigneur Jésus, au jour de sa chair, appelait la loi, les psaumes, les prophètes, eh bien, nous voyons sans cesse cet amour de l'Éternel pour son peuple, sans cesse cet amour évoqué et rappelé. Prenons les livres de la loi de Moïse. Il en est un, le dernier, le cinquième, le livre du Deutéronome, où il nous est parlé constamment de cet amour de l'Éternel pour son peuple. on serait trop encouragé des jeunes parmi nous à lire le livre du Deutéronome dans cette pensée de découvrir cet amour de l'Éternel pour son peuple, cet amour que Dieu aime à évoquer. Et tout à la fin de ce livre, alors que Moïse va mourir, très peu de temps avant sa mort, il pourra dire ceci: oui, il aime les peuples, ou il aime les tribus de son peuple. Ses seins sont dans sa main, ils se tiennent à ses pieds, ils reçoivent tes paroles. C'est une des dernières paroles de Moïse, parole de cette bénédiction remarquable du chapitre 33e du livre du Deutéronome. Bénédiction remarquable, dans le début de laquelle il peut dire « Oui, il aime les tribus de son peuple ». Dans le verset précédent, il est parlé de la venue glorieuse de l'Éternel en parlant quand il donna cette loi à son peuple. « De sa main, dit le législateur, sortit une loi de feu. » Une loi de feu. Déjà, au moment où cette loi était donnée, son caractère était déjà défini. Ça allait être un ministère de condamnation et de mort. Et tout aussitôt, après qu'il ait fait mention de cette loi de feu, dans le verset suivant, oui, il aime les peuples. Quel contraste, chers amis. La loi de feu, au verset 3, au verset 4, oui, il aime les peuples. Un Dieu qui donne une loi qui serait un ministère de condamnation et de mort, ce même Dieu qui aime les tribus de son peuple. Oui, il aime les peuples. Et si nous lisions les chapitres précédents depuis le début de ce livre du Deutéronome, nous verrions de constants témoignages rendus à l'amour de Dieu pour son peuple. Dans le livre des psaumes, dans un livre historique comme par exemple au premier livre des rois, et cela est d'autant plus frappant que c'est une déclaration qui vient de la reine de Sheba, la reine qui est venue du Midi, et qui peut dire à Salomon, à l'ouïe de ses paroles de sagesse, elle peut lui dire ceci: parce que l'Éternel aimait son peuple, il t'a établi sur lui pour faire droit et justice. Pourquoi est-ce que Salomon a été établi sur le peuple d'Israël? Tout simplement parce que Dieu aimait son peuple. Au livre des psaumes, il est parlé plusieurs fois de cette cité de Sion, du lieu de sa présence. Sion qu'il aima, par exemple, est-il dit à la fin du psaume 78e. Et si nous prenons alors les livres des prophètes, bien des fois, il nous est parlé de cet amour de Dieu, par exemple, le prophète Ésaïe, dans un passage que nous connaissons bien, au chapitre 63e de son livre, dira: dans son amour et dans sa miséricorde, il les a portés tous les jours. Et nous pourrions citer d'autres passages encore dans l'Ancien Testament, par lesquels il est rendu témoignage à l'amour de Dieu, l'amour de l'Éternel. Nous arrivons au dernier prophète, au dernier oracle, qui commence par ces mots: « Je vous ai aimé, dit l'Éternel », et l'Ancien Testament se clôt sur cette pensée merveilleuse que l'Éternel a aimé son peuple. Et alors, d'un autre côté, nous avons la démonstration du triste état du peuple d'Israël. Il ose dire, d'une manière effrontée, avec arrogance: « En quoi nous as-tu aimés ? Je vous ai aimés, dit l'Éternel, et vous dites : En quoi nous as-tu aimé? Combien de fois le peuple eut l'occasion d'expérimenter l'amour de son Dieu pour lui? Une dernière fois, il entend cette parole, c'est le début de l'oracle du prophète Malachi. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et tout au cours du livre du prophète Malachi, il va nous être parlé de ce nom, de celui qui a ainsi aimé son peuple, de ce peuple qui malgré tout est resté l'objet de sa dilection. Le nom de l'Éternel est cité souvent dans le livre du prophète Malachi. Nous avons lu seulement un passage dans chacun des quatre chapitres de ce livre où il est parlé ainsi du nom de l'Éternel. Ce ne sont pas les seuls passages, il en est parlé plusieurs fois dans ces divers chapitres. Nous attirons l'attention des frères, des sœurs, de tous ceux qui sont ici présents, nous attirons leur attention sur ces quatre passages, un passage dans chaque chapitre où il nous est parlé du nom merveilleux de celui qui, malgré tout, avait aimé son peuple jusqu'à la fin. Le prophète peut donc dire, en accord avec cette pensée au verset 6, « Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est mon honneur? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom ?» Terrible situation que la situation du peuple d'Israël au jour du prophète Malachi, incontestablement. Mais plus terrible situation encore que celle des conducteurs, et en particulier les sacrificateurs, intermédiaires entre l'Éternel et son peuple. Deux, il doit être dit qu'ils méprisaient le nom de l'Éternel des armées. C'était un temps terrible que ce temps du prophète Malachi. Avoir à la tête du peuple des hommes, des conducteurs qui méprisaient le nom de l'Éternel. Vous dites, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est mon honneur? Le terme de père en rapport avec Dieu doit être considéré sous trois acceptions fondamentales. Il y a tout d'abord la pensée du père, c'est-à-dire le créateur, l'originateur. À cet égard, il est le père de toutes ses créatures. C'est ce que nous avons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, quand il est dit qu'il y a un seul Dieu est Père de nous tous, un seul Dieu est Père. C'est le Dieu créateur, originateur de ses créatures. Puis, une deuxième acception, c'est Dieu présenté comme étant le Père de son peuple. Il y a plusieurs passages, même de nombreux passages, où Dieu est présenté comme étant un Père vis-à-vis de son peuple. Revenons à ce passage du prophète Ésaïe, au chapitre 63, où il est dit, au verset 16, « Tu es notre Père, si Abraham ne nous connaît pas, et si Israël nous ignore, toi, Éternel, tu es notre Père, ton nom est notre Rédempteur de tout temps. » Et alors, il y a la révélation suprême du nom de Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, révélation qui ne pouvait avoir lieu qu'à la suite de la venue de Jésus sur la terre, révélation qui appartient, cela va sans dire, au Nouveau Testament et pas du tout à l'Ancien Testament. Donc, dans ce dernier oracle, il est rappelé que Dieu avait été un père pour son peuple. Et alors, Dieu doit dire, si donc je suis père, où est mon honneur? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Un fils honore son père, c'est écrit dans la parole, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Il est affligeant de voir, dans les temps que nous vivons, combien de fils osent mépriser leur père, ou en tout cas l'autorité de leur père. On n'honore plus son père, on s'élève contre l'autorité paternelle. Cela est triste, cela est affligeant. Le chrétien, le jeune chrétien, a un témoignage à rendre à cet égard, et du reste, à quel âge que nous soyons arrivés, si nous avons encore le privilège d'avoir notre père. Notre Père est digne d'un honneur particulier. C'est la parole de Dieu qu'il dit, « Honore ton Père et ta Mère ». Les enfants d'Israël n'honoraient pas Dieu comme étant leur Père. Ils pouvaient peut-être le dire, « Il est notre Père », mais en tout cas, ils ne montraient pas l'honneur qui est dû à un Père, et ils ne montraient pas non plus la crainte qui est due à un qui est dû à un être. Et ce sujet de la crainte va devenir un grand sujet du livre du prophète Malachie. Très nombreux sont les passages, ou n'exagérons pas, nombreux sont les passages qui nous parlent de la crainte qui est due à Dieu tout au cours de ce bref oracle. La crainte est une caractéristique, nous pouvons dire fondamentale, de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de témoignage réel rendu à Dieu si l'on ne craint pas Dieu. C'est une pensée que nous avons vue dans le chapitre 4e du livre de Josué, que nous avons considéré samedi après-midi. Il est parlé plus d'une fois de cette crainte qui est due à Dieu et de tels miracles, les miracles des chapitres 3 et 4 de Josué nous sont présentés. En fait, quelle est la conclusion, quel est le but de tels miracles sur le plan pratique? Ce sont les derniers mots du chapitre 4e de ce livre de Josué, afin que vous craigniez l'Éternel, votre Dieu. Les sacrificateurs qui eussent dû être un exemple ne l'étaient pas du tout. Ils n'honoraient pas Dieu, ils ne craignaient pas Dieu. Plus grave encore, ils méprisaient son nom. Comment méprisaient-ils son nom? En tant que sacrificateurs, dans l'exercice de leurs fonctions, on osait offrir du pain souillé, on osait offrir des pièces de bétail boiteuses, aveugles, malades. N'est-ce pas mal cela, dit le prophète? Voilà ce que l'on faisait. Et c'est ainsi que l'on osait, au mépris le plus élémentaire de la loi de Moïse, c'est ainsi que l'on méprisait le nom de l'Éternel. Vous, sacrificateurs, qui méprisez l'Éternel. Mais alors, la deuxième partie du chapitre est très belle, chers amis. C'est une réponse de la part de Dieu à ce mépris du nom de l'Éternel par les sacrificateurs. Vous méprisez mon nom. Eh bien, sachez que le jour vient où ce nom que vous méprisez sera grand. Il sera grand, et c'est ce que nous avons lu au verset 11, « Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations, et en tout lieu l'encens sera pur à mon nom, et une offrande pure sera présentée, car mon nom sera grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » L'Esprit de Dieu répète cette pensée. Mon nom sera grand parmi les nations. Vous, sacrificateurs, vous osez mépriser mon nom. Eh bien, ce même nom, un jour, et cela est dit deux fois, sera grand parmi les nations. Et en mon nom sera offert, non pas le culte que vous offrez, en offrant du pain souillé, en offrant des pièces de bétail, aveugles, boiteuses, malades. Voilà ce que vous osez faire. Ah non, l'encens qui sera présenté en mon nom sera un encens pur. Une offrande pure sera présentée, car mon nom sera grand parmi les nations. Et en effet, le jour vient, et c'est à ce jour que l'on appelle, que l'on donne ce nom de millénium. On parle des temps de la gloire millénaire, le règne de mille ans. C'est dans ce temps-là que le nom de l'Éternel sera grand, et qu'en ce nom, on offrira un encens absolument pur, sans mélange, qui n'aura absolument rien de mitigé. Ce ne sera en tout cas pas l'offrande offerte par les sacrificateurs au jour du prophète Malachie. C'est en ces temps-là que l'on célébrera, comme nous l'avons vu hier après-midi, la magnificence d'un tel nom. Et relisons ces deux versets qui encadrent tout l'enseignement de ce psaume fondamental, qu'est le psaume 8e. Quel est le premier verset du psaume 8e ? Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Et le dernier verset, verset 9e, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Nous remarquons, chers amis, qu'il n'est pas dit simplement Éternel Seigneur, il n'est pas dit non plus Éternel mon Seigneur, comme si ce psaume, qui par ailleurs est un psaume individuel, on voit un homme dans ce psaume qui contemple, je contemple les œuvres de tes mains, les œuvres de tes doigts. Eh bien, quand il est question de la louange, il est dit notre Seigneur. Il y a là tout un ensemble de personnes. Il y a tout un ensemble de personnes qui sont profondément heureuses de vous voir ainsi proclamer la magnificence du nom de l'Éternel. Éternel, notre Seigneur. Il y aura à la fin des temps un résidu, le prophète Malachie en parle, un résidu fidèle qui deviendra le noyau de l'Israël millénaire. Ils seront donc plusieurs, grâce à Dieu, pour chanter la magnificence d'un tel nom. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mon nom sera grand depuis le soleil couchant jusqu'au soleil levant. C'est là le tableau de cette domination universelle qui est le grand sujet du psaume 8e, la domination universelle du Fils de l'homme. Nous passons, chers amis, au chapitre 2e et à nouveau l'Éternel, par moyen de son prophète, on s'adresse au sacrificateur maintenant. Sacrificateur, ce commandement est pour vous. Et alors, en voyant l'état de déchéance dans lequel se trouvait la sacrificature en ces temps-là, Dieu revient en arrière. Dans un sens, il revient à ce qui est dès le commencement. Il revient à ce qui est dès le commencement. Et il revient en particulier au passage qui nous a été rappelé hier soir, quand il est parlé de l'alliance avec Lévi, il n'est pas parlé de n'importe quel Lévite ou de n'importe quel descendant de Lévi. Il est parlé en fait de Finé lui-même, le fils de cet homme dont aussi on nous a parlé hier soir, Éléazar. Et il nous a dit ceci au verset 4e. Vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement afin que mon alliance subsiste avec Lévi, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la paix. Et si nous revenons au passage du chapitre 25 du livre des Nombres qui nous a été rappelé hier, nous lisons ceci Et c'est, pensons-nous, cette pensée-là qui a amené nos frères d'autrefois qui nous ont enseigné sur cet oracle du prophète Malachie à voir en Lévi personne d'autre que Finé. Verset 12 du chapitre 25 du livre des Nombres. C'est pourquoi dit, voici je lui donne mon alliance de paix, et ce sera une alliance de sacrificature perpétuelle pour lui et pour sa semence après lui, parce qu'il a été jaloux pour son Dieu et a fait propitiation pour les fils d'Israël. Je lui donne mon alliance de paix. Et dans notre chapitre 2, nous avons lu ceci au verset 5, mon alliance avec lui était la vie et la paix, et je les lui donnais pour qu'il craignît. Et puis, nous avons un tableau admirable de ce qu'a été et la vie et le service de cet homme, Finé, nous le répétons donc, fils d'Éléazar, lui-même fils d'Aaron, lui-même fils d'Amram, lui-même fils de Lévi, et finalement Lévi, fils du patriarche Jacob. Nous avons là quatre éléments de ce témoignage magnifique qui a été rendu par Finé. Le premier, il a trait à son attitude, à son comportement. Qu'est-ce qu'il nous est dit à cet égard? Fin du verset 5, il me craignit et trembla devant mon nom. Voilà ce qui a caractérisé cet homme. Chers amis, est-ce que nous craignons le nom de notre Seigneur? Est-ce que nous tremblons devant le nom de notre Seigneur? Au jour d'Esdras, quand Esdras s'est humilié, et nous savons combien profonde a été son humiliation, il n'a pas été tout seul. Qui sont ceux qui sont venus vers lui pour réaliser cette humiliation devant Dieu? Au chapitre 9 du livre d'Esdras, il nous est dit ceci au verset 4, « Et vers moi s'assemblèrent tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël à cause du péché de ceux qui avaient été transportés, et je restai assis, désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Ceux qui tremblaient aux paroles de l'Éternel se sont joints à Esdras. » Et il est vrai, chers amis, et il demeure toujours vrai que c'est à celui-ci que Dieu regarde, à celui qui a l'esprit contrit, à celui qui tremble à la parole de son Dieu. C'est écrit dans le dernier chapitre du livre du prophète Ésaïe, « À celui-ci je regarderai, à celui qui tremble à ma parole. » Eh bien, Finé, déjà en son temps, a été caractérisé par cela. Quelle attitude vis-à-vis de Dieu? Il me craignit et trembla devant mon nom. Deuxième élément de son témoignage, ses paroles. Les paroles de Finé. Nous savons tous, par expérience, et nous en sommes toujours tristes, en voyant combien facilement nous manquons, nous péchons par nos paroles, facilement, avec une grande facilité, nous le reconnaissons tous, sans difficulté. Eh bien, qu'est-il dit des paroles de Malachie? Verset 6, « La loi de vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne se trouva pas sur ses lèvres. » Son ministère était de recevoir de la part de Dieu cette loi de la vérité et de la communiquer aux enfants de son peuple. Voilà pourquoi sa bouche s'ouvrait, pourquoi ses lèvres s'ouvraient. Pour parler de cette loi de la vérité, elle était dans sa bouche, elle était sur ses lèvres. Troisième élément de ce témoignage, sa marche. Sa marche, il nous est dit Oh, toujours au verset 6e, à la fin, il marcha avec moi dans la paix et dans la droiture. Dans la paix et dans la droiture. Et puis, 4e élément, son activité, il détourna de l'iniquité beaucoup de gens. C'est un beau travail, cela. Détourner, pas seulement une âme, pas seulement deux âmes, détourner beaucoup de gens de l'iniquité. Or, l'iniquité, si nous nous en référons aux enseignements de l'apôtre Jean, l'iniquité est la manifestation de la propre volonté. Eh bien, il a détourné de l'iniquité. Il a détourné du chemin où s'engageaient tant d'âmes, le chemin de la propre volonté. Il les a détournés d'un tel chemin pour les amener dans l'autre chemin, le chemin vrai, le chemin selon Dieu, le chemin où la volonté de Dieu est connue et réalisée. Voilà ce qu'a fait Finet. Notons cela, chers amis, même si nous nous souvenons plus de tout ce qui a été dit de ce prophète, eh bien, au moins, souvenons-nous de ce témoignage de Finet, descendant de Lévi. Quant à son comportement, quant à ses paroles, quant à sa marche et quant à son activité, il détourna beaucoup de gens de l'iniquité. Et les sacrificateurs du temps de Malachie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelle était leur activité? Ah, c'est un contraste un peu plus cuisant que celui-là. Que faisaient-ils, ces sacrificateurs? Il nous est dit, au verset 8e, « Mais vous, vous vous êtes écartés du chemin, vous avez fait broncher beaucoup de gens à l'égard de la loi, vous avez corrompu l'alliance de Lévi. » Un homme, Finet, qui a détourné beaucoup de gens du chemin de l'iniquité. Une masse de sacrificateurs qui a fait broncher beaucoup de gens. Voilà ce que l'on faisait au jour du prophète Malachie. Ainsi donc, Finet, retenons ceci, a tremblé devant le nom de l'Éternel. Nous le répétons, c'est une chose remarquable de voir que ce nom de l'Éternel est ainsi souligné à plusieurs reprises, plusieurs fois dans chaque chapitre. Il est souligné dans ce dernier oracle de l'Ancien Testament. Il ne faut pas que l'Ancien Testament se termine sans que ce peuple et les conducteurs de ce peuple entendent une fois encore quelle est la valeur, la grandeur et la puissance de celui qui, malgré tout, les avait aimés jusqu'à la fin. « Je vous ai aimés, dit l'Éternel. » Au chapitre 3e, nous avons au verset 16, « Ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. L'Éternel a été attentif, il a entendu. Un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. » La masse du peuple d'Israël vivait dans un état moral des plus déplorables. Si nous lisons au chapitre 2e, au chapitre 3e, mais au début de ce chapitre, au verset 5, il y a une annonce de jugement. « Je m'approcherai de vous en jugement, je serai un prompt témoin contre les magiciens, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui oppriment le mercenaire quant à son salaire, ou la veuve et l'orphelin, et font fléchir le droit de l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Nous avons parlé de cette crainte qui remplit tout l'oracle de Malachie. Il est parlé ici de ces gens très nombreux qui ne craignaient pas l'Éternel. Il est parlé des magiciens. N'est-il pas remarquable de voir que, quand il s'agit du système chrétien, du vaste système, disons même pas chrétien, parce que ce n'est pas juste, le vaste système christianisé actuel, quand le livre de l'Apocalypse nous en parle, « Contre qui est-ce que Dieu se lèvera à la fin des jours, en rapport avec le système christianisé, contre les magiciens? Ils sont mentionnés à la fin de l'Ancien Testament, et ils sont mentionnés à la fin du Nouveau Testament. Tout cela, ils n'auront qu'une part dans la céleste cité, est-il dit en Apocalypse 22. Et alors, au milieu de cette masse, où l'on méprisait froidement le nom de l'Éternel, il y avait quand même, chers amis, quelques âmes pieuses. Si Dieu ne s'est jamais laissé sans témoignage en rapport avec la création, acte 14, on peut dire, quant à l'économie de la grâce, et en rapport avec toutes les économies, Dieu ne s'est jamais laissé sans témoignage. Il y a quelque chose d'encourageant et d'apaisant dans cette pensée, que Dieu ne se laissera jamais sans témoignage. Au jour de Malachie, jour profondément triste, il y avait un résidu, comme nous appelons, selon le nom que nous donnons à ces quelques-uns qui restent fidèles au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons alors ces quelques-uns qui craignaient Dieu. Ils craignaient Dieu. Et ils étaient heureux de se rencontrer. Ils craignaient Dieu. Et ils se rencontraient tout heureux de pouvoir parler l'un à l'autre. C'était probablement pas un rassemblement comme celui de ce soir, comme celui de ces jours que nous avons le bonheur incontestablement de connaître. C'était certainement plus davantage un individu qui rencontrait un autre individu craignant Dieu, et ils avaient à cœur ainsi de parler l'un à l'autre. Et Dieu était sensible. Dieu est sensible à cela. Dieu aime voir les siens parlant l'un à l'autre. Un livre de souvenirs a été écrit. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas les entretiens de ses enfants bien-aimés. Il a été attentif. Il a écrit un livre de souvenirs pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Pensons-nous au nom de notre Seigneur. Nous aimons avec raison, nous aimons à célébrer la grandeur d'un tel nom. Nous chantons dans nos cantiques, nous venons de le faire plusieurs fois dans la journée d'hier, nous avons chanté la grandeur du nom de notre Seigneur. Y pensons-nous? Chanter est une chose, très belle chose. Une autre chose, c'est de penser personnellement, penser au nom du Seigneur le long du chemin, avoir ces pensées qui s'élèvent vers en haut, vers Dieu, vers le Seigneur. Pensez au nom du Seigneur, selon le passage bien connu de l'Épître aux Colossiens, quand il est dit ceci, que si vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Quand nous les avons cherchées et trouvées, cela n'est pas suffisant, il faut encore y penser. Pensez, Colossiens 3, verset 2, pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Cherchons les choses du ciel, cherchons la gloire de notre Seigneur, pensons au nom de notre Seigneur. Pensons-y beaucoup dans le silence, quand nous sommes seuls, seuls avec Dieu, pensons beaucoup au nom du Seigneur. Mon cher enfant de Dieu, nous sommes heureux ensemble de pouvoir parler de la beauté d'un tel nom. Nous arrivons au chapitre 4, verset 2 du chapitre 4. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Promesse merveilleuse sur laquelle se termine l'oracle du prophète Malachie. Pour vous qui craignez, de nouveau la pensée de cette crainte, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Lorsqu'il instaurera ce règne dont nous avons parlé, le millénium. Alors, un soleil, un matin sans nuage se lèvera. Et ce sont les dernières paroles, non plus de Moïse, mais de David. David peut dire, celui qui domine parmi les hommes sera juste, dominant en la crainte de Dieu. Moïse s'efface tout aussitôt, je n'ai pas été ce dominateur, je n'étais pas régné comme j'aurais dû régner à la gloire de Dieu. Il en est un autre qui vient. Il sera ce soleil de justice, sa venue sera comme le matin sans nuage. Le dominateur viendra, il sera juste et il dominera en la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu sera réalisée d'une façon parfaite, comme elle a été réalisée par Jésus au jour de sa chair, quand il était sur la terre. Ainsi, cette crainte sera réalisée encore par le même homme, l'homme Christ Jésus, qui alors est vu dans ce passage comme étant celui qui détiendra toute autorité sur la terre. Il sera ce dominateur juste, dominant dans la crainte de l'Éternel. Et voilà l'espérance qui est donnée à ces quelques-uns qui craignaient le nom de l'Éternel. Pour vous qui craignez mon nom, voilà. Voilà l'espérance que j'ai pour vous. Le soleil de justice se lèvera. Il apportera, comme il est dit, il apportera, la guérison sera dans ses ailes. Retenons de ces chapitres ceci, chers amis. Au chapitre premier, nous avons un nom méprisé. Le nom de l'Éternel qui est méprisé, mais qui aussi un jour sera grand depuis le soleil couchant jusqu'au soleil levant. Moi, je suis le roi, dit l'Éternel, je dominerai parmi toutes les nations. Chapitre deuxième, un nom devant lequel on tremble. Finé à trembler devant le nom de l'Éternel. Nous avons, chers frères et sœurs, à rendre un témoignage à cet égard, à trembler devant les paroles de notre Dieu. Chapitre troisième, un nom auquel on pense, un nom auquel on aime à penser. Pensons-nous au nom de notre Seigneur, pensons-nous toujours à ce nom. Nous cherchons les choses qui sont en haut. Nous sommes le chrétien présenté comme étant un être ressuscité, marchant sur cette terre comme un être ressuscité, ayant passé au-delà de la mort. Nous avons cherché, nous cherchons les choses qui sont en haut, nous les avons trouvées. Maintenant que nous les avons trouvées, nous devons y penser. Pensez aux choses qui sont en haut. Un nom auquel on pense. Et enfin, au chapitre quatrième, un nom que l'on craint. Et alors, pour celui qui craint, une espérance merveilleuse est placée devant ses yeux, devant son cœur, objet de sa foi. Le soleil de justice se lèvera et apparaîtra. Et alors, il aura la guérison dans ses ailes. Ce nom méprisé, mais qui sera grand, ce nom devant lequel on tremble, ce nom auquel on pense, ce nom que l'on craint, chers amis, tout cela doit nous parler. Tout cela doit nous parler et nous amener à rentrer en nous-mêmes et à nous demander jusqu'à quel point nous réalisons un témoignage semblable. Jusqu'à quel point est-ce que ce nom du Seigneur que nous aimons à chanter dans nos cantiques, à réitérer reprises et avec raison, jusqu'à quel point est-ce que ce nom a véritablement son influence sur nous et en nous? Influence pénétrant dans notre cœur, dans notre conscience, afin que nous soyons amenés à trembler devant ce nom, à penser à ce nom, à craindre ce nom.
Chers amis, nous avons lu encore de courts passages dans l'Évangile selon Matthieu. Ce nom, en fait, dont il est parlé si souvent dans l'Ancien Testament, ce nom que beaucoup, ou en tout cas plusieurs, ont désiré connaître, ce nom, quel est-il ? Finalement, c'est le nom de Jésus. Au premier livre de la parole de Dieu, un patriarche qui a combattu avec un homme, disons un ange apparu sous forme humaine, l'ange de l'Éternel. Cet homme, c'était donc Jacob. Il a combattu et alors il a voulu connaître le nom de cet homme. On le comprend très bien. Quel est ton nom ? Ah, pourquoi me déclares-tu mon nom ? Comme si l'ange disait, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te le dire. Ta question se comprend fort bien, mais je ne peux pas te répondre. Mais il est alors dit, et il le bénit là. Le nom mystérieux, qui ne pouvait pas être donné à connaître au livre de la Genèse, en vertu de ce nom, de la puissance de ce nom, Jacob pouvait être béni. Déjà à ce moment-là. Et il le bénit là. Dans un autre épisode que on nous a rappelé également hier soir, en rapport avec Manoé et sa femme, « Quel est ton nom, afin que nous t'honorions quand l'ange de l'Éternel est venu, afin que nous puissions t'honorer quand les choses dont tu nous as parlé, des choses extraordinaires, s'accompliront. Quel est ton nom ?» La réponse, le nom n'est pas donné, il est qualifié. Mon nom, pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. Un nom merveilleux dans le sens d'un nom mystérieux, nom qui ne pouvait pas être donné connaître à ce moment-là. Il en est de même dans l'oracle d'Agur, au début de cet oracle, quand Agur est pénétré de la grande puissance de Dieu en création, quel est son nom ? Et le nom de son fils, si tu le sais. Le point d'interrogation est là, mais la réponse n'est pas donnée. Chers amis, il faut arriver dans le Nouveau Testament pour que nous sachions qui est en fait ce nom qui nous a occupés durant cette soirée. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin dans la lecture du Nouveau Testament pour savoir quel est ce nom. C'est comme si l'Esprit de Dieu était pressé de nous le donner à connaître. Nouveau Testament, premier évangile, premier chapitre, première ligne. Livre de la généalogie de Jésus-Christ. Voilà ce nom, Jésus-Christ. Et alors, au cours du chapitre, il y a trois titres de Jésus, et c'est sur cette pensée que nous aimerions clore. Verset 16 du chapitre 1er, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Loin de l'Éternel, annoncé dans l'Ancien Testament, celui qui devait venir un jour sur la terre pour régner. Il est venu, il n'a pas été reçu, le règne n'a pas été établi, il a été renvoyé à plus tard. Le Jésus qui est appelé Christ. Deuxième titre, verset 21, elle enfantera un fils, tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Jésus. Le nom de Jésus, chers amis. Il n'y a pas de nom qui puisse plus émouvoir et réjouir le cœur d'un croyant fidèle. Le nom de Jésus, Jéhovah Sauveur, le nom de celui qui sauve, le nom de celui qui allait délivrer le peuple de tous leurs péchés. Ce peuple n'a pas reçu Jésus. Mais alors, l'évangile de la grâce a été proclamé par les serviteurs de Jésus jusqu'au bout de la terre, parmi les nations. Et alors, Jésus est présenté comme étant celui qui est le sauveur du monde, selon le témoignage d'une brave, d'une pauvre samaritaine. Il est le sauveur du monde. Oh, il n'est pas seulement le Messie, il n'est pas seulement le Christ, semble dire la samaritaine. Il est le sauveur du monde. Jésus, Jéhovah, sauveur. Ce nom réjouit toujours le cœur, et plus nous avançons dans la vie chrétienne, et des ceux qui ont véritablement blanchi au chemin de l'existence peuvent parler bien mieux que nous-mêmes encore de toute la valeur et de toute la douceur du nom de Jésus. On sait que l'un des conducteurs dont la mémoire nous est toujours très chère, un serviteur dont Dieu s'est servi au siècle passé et par lequel des vérités merveilleuses nous ont été comme révélées. Ce serviteur atteint de surdité à la fin de ses jours et s'en allait au culte. Il ne pouvait plus aller à d'autres réunions. Lui qui avait tant enseigné, tant présenté la parole, il allait au culte et il n'entendait pas beaucoup ce qui se disait au culte. Mais que disait-il en sortant du culte? Mon bonheur est grand, mon bonheur est total, pourvu que j'entende le nom de Jésus et cela me suffit. Et il était pleinement satisfait du culte qui avait été rendu par les frères et les sœurs réunis. Quant à lui-même, demeurant silencieux, il entendait ce nom de Jésus. Et il pouvait dire à l'issue du culte, pourvu que j'entende le nom de Jésus et mon âme est remplie de bonheur. Quelle fin, chers amis, quelle fin magnifique, quelle fin enviable, que ma fin soit comme la sienne, avons-nous tous envie de dire. Et enfin, nous avons ce troisième titre, au verset 23e, « On appellera son nom Emmanuel, ce qui interprétait Dieu avec nous. » Emmanuel, nom qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 7, au chapitre 8 de son livre, le nom d'Emmanuel qui veut dire « Dieu avec nous ». Jésus, le nom qui sauve. Emmanuel, le nom qui rassemble. L'évangile selon Matthieu dans un sens est l'évangile de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et il est très remarquable de voir que au premier chapitre, au milieu de l'évangile, et les dernières paroles de l'évangile ont trait à cette présence constante de Dieu. Nous avons au premier chapitre l'annonce de celui qui naîtrait, son nom serait Emmanuel, Dieu avec nous. Le peuple d'Israël n'a pas reçu un tel sauveur, alors une autre économie est suscitée, l'économie de l'Église, et alors au chapitre 18e de cet évangile, selon Matthieu, nous avons le principe de base du rassemblement des enfants de Dieu. Ce principe de base qui est conçu en ces termes, là, où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est la seule raison de notre rassemblement sur la terre, le nom de Jésus, l'autorité de Jésus, là où même seulement y en aurait-il deux ou trois rassemblés en la seule autorité de mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà la présence de Jésus promise et assurée à ceux qui se rassembleraient en son nom. Et l'évangile se termine par cette pensée qui a été en consolation à des milliers et des milliers de croyants. Voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. C'est là la pensée du Seigneur vue sous un jour individuel. Le Seigneur avec chacun de nous, indépendamment de la notion d'un rassemblement, dans le chemin de la vie, de chaque jour, je chemine, Jésus avec moi, étant avec Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. L'évangile selon Matthieu, évangile de la présence de Dieu, début, milieu, fin de l'évangile. Jésus, le nom qui sauve. Emmanuel, le nom qui rassemble. soir encore et proclamez ce nom de Jésus, le nom qui sauve. L'avons-nous tous reçu, ce parfait sauveur que Dieu nous donne? Nous sommes tous inclinés devant le nom de Jésus, Jéhovah Sauveur. Sommes-nous assurés tous dans cette vaste assistance? Sommes-nous tous assurés de connaître Jésus pour notre Sauveur personnel? Pas seulement parler Jésus le Sauveur, ou comme on entend dire quelquefois le bon Sauveur. On ferait mieux de parler du miséricordieux Sauveur, si nous voulons ajouter un adjectif. Avons-nous véritablement reçu Jésus? Pas seulement parler du Sauveur, pas seulement parler de notre Sauveur, mais de mon Sauveur. Pouvons-nous le dire, chacun ici, chers jeunes gens, vous pouvez le dire tous, que Jésus est mon Sauveur. Et quant au rassemblement de nous-mêmes, apprécions-nous la présence de Jésus? Quand nous nous réunissons pour l'adoration, pour le ministère de la parole, pour l'heure de la prière, est-ce vraiment en ce nom de Jésus que nous venons? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui nous attire, le nom de Jésus? Avons-nous conscience que nous ne venons pas peut-être pour voir un frère, pour entendre un frère? Nous venons attirés par l'autorité et la puissance d'un tel nom. Deux ou trois sont assemblés en mon nom. Cela implique l'autorité du nom de Jésus. Nous nous rassemblons en cette seule autorité, pas l'autorité d'un homme, l'autorité de Jésus. Et puis, cela peut être traduit aussi, rassemblés à son nom, c'est-à-dire que nous nous rassemblons pour nous attendre à son nom. La foi est mise en exercice pour nous attendre au nom du Seigneur, ce nom en vertu duquel la bénédiction peut être déversée sur le rassemblement de nous-mêmes. Que le Seigneur nous accorde de nous souvenir des enseignements qu'il nous donne, soit tout à la fin de l'Ancien Testament, soit tout au début du Nouveau Testament, en relation avec ce nom merveilleux de Jésus. En effet, comme il est dit dans un cantique, il n'y a pas de nom si doux dans les cieux et sur la terre que le nom d'Emmanuel.